de la ville à l'urbain, ce que j'ai essayé d'illustrer mardi, il faut recontextualiser cela par rapport à des évolutions, notamment dans le domaine de l'emploi, dans le domaine économique, qui ont accompagné ce passage de la ville à l'urbain. J'avais essayé de vous expliquer mardi que une des raisons une des causes qui permettait de comprendre et de caractériser le passage de la ville à l'urbain, c'était l'industrialisation dans un premier temps au 19e et puis dans un second temps le développement d'une industrie et d'une économie de la consommation dans les années d'après-guerre finalement. Bon, donc ça appréhendé du point de vue de la ville, de la standardisation par exemple de la production des logements, de l'éclatement des cadres de la ville historique, de l'étalement urbain, de la production du logement pour les catégories ouvrières nécessaires à la production des biens dans le cadre d'une société de consommation, ça donnait au fond la ville qui se met en place à partir des années 60-70, c'est-à-dire au fond cette ville composée à la fois de grands ensembles et de lotissements principalement pavillonnaires situés dans les périphéries urbaines. Bon, au fond, ce modèle de la ville industrielle qui se met en place au 19e et qui se renforce et se concrétise après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un modèle qui est porteur d'un certain nombre de modes de vie associés. Ou c'est un modèle, en tout cas, auquel on a pu, pendant longtemps, associer l'idée que, au fond, du point de vue des trajectoires sociales, comme du point de vue des trajectoires résidentielles, on était sur une logique de progrès, sur une logique d'ascension. Hein, au fond, c'est une période au cours de laquelle nombre d'individus qui avaient par exemple des racines familiales, rurales, modestes, ont connu eux-mêmes ou leurs aïeux des migrations vers la ville, s'y sont installés, y ont occupé des emplois dans l'industrie, la petite industrie, les usines, et puis ont connu, au fil des générations, un processus d'ascension sociale au sein de l'entreprise, puis souvent au-delà. Et ce processus d'ascension sociale, il s'est largement appuyé et caractérisé par des trajectoires résidentielles assez caractéristiques, au fond. En gros, hein, dans les années 60, nombre de ménages dont les ancêtres étaient plutôt des ruraux et qui avaient grandi en ville dans des logements plutôt petits, plutôt insalubres, souvent en centre-ville ou en faubourg, ont connu un passage par le logement social, les grands ensembles, les UP, et puis, au fur et à mesure que leur situation s'améliorait et que les politiques publiques, j'en ai parlé mardi, à la fin des années 70, le leur ont facilité, et bien ces ménages, pour une bonne partie d'entre eux, ils ont ensuite accédé à la propriété dans des pavillons, plutôt en périphérie. Tout ça venant caractériser ces trajectoires, venant caractériser un petit peu leur réussite sociale. Donc on est sur ce modèle-là, dans le passage de la ville à l'urbain, c'est-à-dire au fond, on conserve avec la ville industrielle un certain nombre des attributs de la ville historique, notamment dans le centre, et puis on permet une évolution sociale et une évolution résidentielle qui se coordonnent, hein, et qui, au fond, positionne un petit peu tout le monde dans une optique, dans une logique d'ascension, d'amélioration des conditions de vie, etc., etc. Alors, ça s'appuie sur des modes de vie, sur des modes d'habiter qui, on l'a vu la dernière fois, alors, selon le point de vue auquel on se place, ça s'appuie sur des modes de vie et des modes d'habiter qui subissent d'un côté ou qui acceptent de l'autre, hein, un certain type de standardisation. Standardisation des logements, standardisation de tel ou tel type de production, standardisation évidemment de la consommation, standardisation des modes de vie. Mais au fond, cette standardisation-là, cette uniformisation-là, on y consent d'autant plus facilement à cette période que, comme je viens de le dire, on est sur une logique, une bonne partie de la société est sur une logique d'ascension sociale et de trajectoire sociale résidentielle ascendante. Donc en gros, on accepte d'autant plus facilement d'être comment dire, on accepte d'autant plus facilement cette uniformisation des modes de vie qu'on semble y trouver son compte. Au fond, on joue le jeu de la société de consommation. On joue le jeu de la société de consommation. Ça marche bien tant qu'on est dans un moment social, un moment économique, un moment politique, à l'intérieur duquel le chômage est faiblement important, à l'intérieur duquel, d'une manière ou d'une autre, les revenus vont toujours croissant. Ça se dégrade fortement à partir du moment où, eh bien, ce schéma, il marche plus complètement. Et ce schéma, on sait bien que cette ville industrielle qui s'est mise en place avec le 19e et qui s'est vraiment renforcée, enfin, qui s'est installée d'autant plus fortement après la Deuxième Guerre mondiale, on sait bien que, au fond, à partir des années 70, avec les chocs pétroliers, avec l'arrivée et l'installation, en France notamment, d'une politique néolibérale, enfin libérale plus exactement, on sait très bien que ce modèle, il atteint là ses limites. Il atteint là ses limites sur le plan économique, il atteint là ses limites sur le plan de la consommation d'énergie, il atteint ses limites aussi sur le plan de la standardisation, sur le plan de ce que ce mode de ce que cette manière d'urbaniser les modes de vie qui vont avec, les modes d'habiter qui vont avec, propose à la société. Hein, c'est ce que je disais la dernière fois sur toute cette période au cours de laquelle il y a notamment eu un certain nombre de luttes urbaines. Luttes urbaines qui avaient vocation à signifier quoi? À signifier qu'au fond, il y avait dans la société, notamment autour de la notion de patrimoine, dans un premier temps au moins, une partie de la population qui ne souhaitait plus jouer ce jeu de la société de consommation, ne souhaitait plus se voir imposer des normes d'habiter, souhaitait au fond reprendre la main sur ses modes de vie et reprendre la main sur ses modes de vie, en particulier pour les luttes urbaines dont on a parlé un petit peu la dernière fois, en reprenant la main sur la proté sur, sur, en protégeant pardon, une partie du patrimoine urbain. Donc, ce modèle de la ville industrielle, le modèle qui s'est petit à petit installé au moment du passage de la ville à l'urbain, il entre en crise à partir du moment où la société industrielle entre en crise, au fond, dans la deuxième moitié des années 70. Et à partir de là, on va commencer à s'apercevoir, on va commencer à mesurer beaucoup mieux que par le passé un certain nombre des limites. Au fond de ce modèle, de ces modes de vie. Un certain nombre des limites, bien sûr, mais aussi un certain nombre des aspects plus positifs qu'avait cette ville industrielle. Et c'est au fond, bon là, je viens un peu de rebrosser une sorte d'introduction, c'est au fond dans ce contexte-là et à partir de cette histoire-là que je voudrais essayer d'aborder cet après-midi là un certain nombre de grandes tendances qui, depuis cette période, au fond, d'entrée en crise de la société industrielle, et du coup d'entrée en crise par certains côtés des espaces urbains et de la ville, je voudrais essayer d'aborder donc cet après-midi un certain nombre de tendances, de courants, de processus qui animent les modes de vie et les modes d'habiter. Bon. Ça va? C'est un peu l'idée ou... Oui? Non, je sais pas.
Bah oui, mais là.
Ça vous va? Oui? Bon, vous me dites, hein, sinon je peux faire autre chose, mais. Non, mais je veux dire, on peut s'adapter quand même.
Ça vous va ou pas?
Ah oui?
Bon,
après, s'il y a d'autres options, je sais pas.
En fait, ils veulent savoir les options. C'est le choix, tu vois.
Bah en fait, c'était une fausse question. C'est-à-dire qu'il
y a une standardisation sans choix.
Il n'y a pas, pas d'autre option, mais c'était pour faire comme s'il y en avait.
Il y a peut-être des focus qu'on pourrait avoir après.
Oui, après, on pourra s'arrêter
plus.
La
mobilité pour les personnes à problèmes physiques, moteurs.
En particulier.
Particulier.
Bon. Donc, en gros, je vais dire, je vais pas avoir un plan particulièrement structuré, si ce n'est aborder de manière un peu successive un certain nombre de processus sociaux, de tendances qui me semblent aujourd'hui caractériser, au fond, ces territoires urbains. Alors, parmi les premiers éléments de caractérisation qui me semblent importants de souligner, c'est que, au fond, avec le passage de la ville à l'urbain, et ça ne s'est pas démenti malgré la crise sociale et la crise urbaine des années 70. Premier élément qui est fondamental en termes de mode de vie et de mode d'habiter aujourd'hui, c'est bien la question de la mobilité. Donc, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se proposer d'observer, d'étudier, de travailler sur les modes de vie urbains, sur les manières d'habiter urbaines, si on ne prend pas à sa, la juste mesure de la place qui tiennent les mobilités. Alors, les mobilités à plusieurs niveaux. Évidemment, quand on parle de mobilité, on pense d'abord, et je veux dire, on pense avant tout et en premier aux mobilités un petit peu quotidiennes, enfin bon, les déplacements à pied, en voiture, en transport en commun, etc., etc. Il est évident que ces mobilités-là, elles ont une importance capitale dans la ville aujourd'hui et dans les modes de vie, en grande partie parce que, ben, on l'a dit la dernière fois, les espaces urbains se sont très largement étalés, étendus, spécialisés, diversifiés. On a étendu la distance entre lieu d'emploi et lieu d'habitation, entre lieu d'habitation et lieu de consommation, etc. Et donc forcément, nécessairement, les mobilités ben, servent à relier, à faire tenir ensemble tous ces morceaux de ville et tous ces espaces urbains là. Donc, le premier aspect dans cette question des mobilités, c'est qu'on a on a de plus en plus des modes de vie qui se structurent évidemment au quotidien sur la mobilité. La mobilité devient une sorte de norme, et quand elle n'est pas, quand les individus ne la maîtrisent pas, ne la possèdent pas, n'en possèdent pas les compétences, quand les individus ne la mettent pas suffisamment en œuvre au quotidien, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que ça semble toujours un peu problématique, hein, voire même suspect. On est censé être mobile au quotidien, se déplacer, bouger, et quand on ne l'est pas, c'est souvent présenté comme un attribut un peu suspect, on ne possède pas les capacités de mobilité. Au fond, qu'est-ce que ça signifie, hein ? Ça signifie qu'on ne veut pas se donner les moyens de bouger, ça signifie qu'on reste enfermé sur son chez-soi, sur sa communauté. Il y a toute une rhétorique qui se développe aujourd'hui, dans l'analyse des modes de vie urbains, y compris dans l'action urbanistique, hein, qui valorise la mobilité, quoi. La ville serait devenue immanquablement, forcément, un territoire où il faudrait toujours plus favoriser la mobilité, et tout ce qui pourrait venir la contraindre, la limiter, la rendre moins facile, moins aisée, serait par définition complètement à proscrire et à éviter, parce que les modes de vie seraient totalement des modes de vie marqués par la mobilité. Bon, là, il y a un courant extrêmement fort qui marque, je veux dire, les individus. Quand on va enquêter aujourd'hui auprès des ménages, on se rend bien compte que la question des mobilités, c'est pour eux une dimension cruciale, incontournable de leur quotidien. Et quand on compare les résultats d'enquête aujourd'hui avec ceux qui étaient menés il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, bon, on se rend bien compte du fait que la mobilité, elle a connu une explosion des échelles, une explosion des distances parcourues, y compris à l'échelle urbaine et au quotidien. Donc là, il y a une première dimension de la mobilité qui est fondamentale, qui est celle de la mobilité quotidienne, celle des déplacements. C'est évidemment pas la seule, et il me semble que parmi ce qui caractérise les modes d'habiter aujourd'hui, il y a une autre acception de la mobilité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est évidemment la question de la mobilité résidentielle. On est entré dans une période et dans un moment où, en termes de mode de vie, ce qui semble prévaloir, comme norme, par certains côtés, en tout cas, c'est ce que les discours des individus semble relayer, c'est quand même une certaine forme de mobilité résidentielle. Mobilité résidentielle, c'est donc l'idée que au cours de sa vie, nécessairement, on aspirera à changer de logement pour aller vers. Alors pendant longtemps, on a dit pour aller vers un idéal qui est celui du pavillon, de la maison individuelle, plutôt en périphérie. On voit bien que ces choses-là sont moins nettes aujourd'hui, que les figures vers lesquelles on veut aller se sont un petit peu complexifiées, qu'il y a peut-être une plus grande différenciation en fonction des groupes sociaux. Néanmoins, l'idée que la mobilité résidentielle doit rester un élément clé des modes de vie, ça c'est une dimension très ancrée chez les individus, mais d'autant plus ancrée chez les individus qu'elle est fortement, qu'elle est aussi très ancrée dans toutes les politiques qui portent sur, en particulier, le logement ou l'habitat. Et que même ces politiques en viennent à considérer que l'immobilité résidentielle est un problème, quoi, est une tare, hein, est une tare sociale. C'est évident qu'on voit bien dans les quartiers dits en difficulté qu'un des premiers critères qu'on utilise pour essayer d'évaluer le niveau de difficulté des quartiers, c'est quel est le taux de rotation dans la location des logements. Plus le taux est faible, plus on se dit, là, il y a enquistement d'un certain nombre de populations qui n'étaient censées rester là que quelques temps et qui, du coup, n'ont pas pu partir. N'ont pas pu partir pourquoi? Non pas parce qu'elles n'ont pas voulu, bien sûr, elles voulaient partir, et c'est vrai, pour la plupart, dans les entretiens, ça ressort bien. Mais elles n'ont pas pu, elles ont donc vu leur trajectoire résidentielle bloquée. Elles n'ont pas eu accès à cette mobilité résidentielle qui caractérise et qui doit caractériser aujourd'hui les modes de vie urbains, la vie en ville. Bon, alors là, c'est une question extrêmement complexe et profonde, hein, que celle de la mobilité à la fois quotidienne et résidentielle. Parce qu'au fond, ça interpelle directement la manière dont on considère la capacité des individus à s'ancrer dans un territoire, à se l'approprier, à tout simplement à l'habiter. Hein. Dans les modèles qui sont un peu tous, dans les modèles, enfin dans les idées qu'on peut se faire de l'habiter, dans les idées qu'on peut se faire de l'acte d'habiter, quand même, ce qui vient le plus fréquemment et le plus souvent à l'esprit, c'est plutôt une certaine forme de sédentarité. Alors bien sûr, il y a toute une série de raccourcis aujourd'hui assez faciles, hein, le nomadisme contemporain en particulier, etc. Bon, mais tout ça n'est pas très sérieux finalement, hein. Tout ça n'est pas très sérieux, tout ça est un peu raccourci. Tout ça, c'est un petit peu des raccourcis rapides d'un certain nombre de chercheurs plus ou moins médiatiques. Je pense à des gens comme Michel Maffezoli par exemple. Bon, c'est pas très sérieux tout ça, je veux dire, il n'y a pas de nomadisme contemporain, ou alors nomadisme ça ne veut plus rien dire, quoi, hein. Ça c'est de l'usage marketing d'un certain nombre de terminologies plus ethnographiques. Donc si cette question, enfin, si on ne peut pas réduire cette analyse au fond de la question des mobilités autant quotidiennes que résidentielles, de leur place dans les modes de vie, à une question un peu simple du nomadisme contemporain, qu'est-ce qu'on y met derrière? Qu'est-ce qu'on y met derrière quand on se propose d'analyser les modes d'habiter, quand on se propose d'analyser la capacité des gens à vivre quelque part, habiter un lieu? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que, par exemple, toute une série de courants, notamment dans les années 90, qui ont dit, ben, au fond, ces mobilités, le résultat de ces mobilités quotidiennes et résidentielles, c'est le fait que, ben, aujourd'hui, par exemple, ça n'a plus de sens de parler de quartier. Le quartier n'existe plus. Hein, les quartiers dans les villes n'existent plus, ça a explosé. L'échelle de vie quotidienne des gens, elle est bien plus vaste que les quartiers. Et donc, ben, raisonner en termes de quartier, ça n'a plus de sens. Il y a cette échelle, je veux dire, cette échelle séculaire d'appropriation. Hein, c'est le quartier, c'est aussi vieux que la ville. Et la ville, souvenez-vous, hein, elle est restée pendant à peu près une vingtaine de siècles sans trop bouger. Et puis depuis un siècle, elle bouge. Donc depuis que la ville existait, il y avait des quartiers. Et puis aujourd'hui, il n'y en aurait par exemple plus. Ça n'aurait plus beaucoup de sens. Parce que les échelles de vie seraient différentes. Donc ça, c'est évidemment des débats. Il ne s'agit pas de dire si c'est totalement juste ou totalement faux. Mais la vraie question qu'il y a derrière, c'est du coup, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse des modes de vie, des modes d'habiter en ville aujourd'hui si on ne se pose pas la question des mobilités. Parce que si on l'oublie, évidemment, on ne va pas se poser ce genre de questions-là. Or, effectivement, l'exemple du quartier est un bon exemple. Oui, effectivement, l'échelle du quartier aujourd'hui, nécessairement, ce n'est plus la même que celle dont, par exemple, dont parle Michel de Certeau et j'ai oublié son prénom, et Pierre Mayol, dans l'invention du quotidien, à propos du quartier lyonnais qu'ils étudient dans les années 70, où là, effectivement, il y a encore une échelle du piéton qui prévaut, et c'est ce qui participe et qui permet de définir les quartiers. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Ou quand on en est là, parfois, hein, que les quartiers existent, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, on considère que c'est un peu pathologique, quoi. Les quartiers, d'ailleurs, quand on dit les quartiers aujourd'hui, hein, c'est un raccourci pour dire les quartiers où ça va pas bien, quoi. Hein? Donc c'est un bon exemple que cette idée de cette notion de quartier, je crois que la question des mobilités remet complètement en cause, et depuis maintenant un certain nombre d'années, toutes nos représentations de la ville, mais plus largement de l'espace. Hein? Qu'est-ce qu'on habite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on habite? Son quartier, la planète, des échelles extrêmement larges, des échelles éclatées, des réseaux. Il y a toute une réinterrogation à partir des mobilités sur la forme des espaces de vie, des espaces d'habitation des individus. Et ça, c'est pas un problème anecdotique que cette question des mobilités. Je prends un exemple un peu précis. Quand on considère, par exemple, que la ville aujourd'hui est un espace, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, parce que c'est une tendance forte à mon sens, mais est un espace particulièrement fragmenté socialement. Hein, qui divise, qui s'organise en grande partie à partir de logiques de ségrégation entre des catégories sociales ou des groupes sociaux différents. Si on considère ça de manière statique, on peut tout à fait accréditer la thèse d'un éclatement de la ville et d'un éclatement social de la ville et du coup d'un éclatement social de la société, d'un éclatement social tout court. Hein, au fond, la ville est ségrégée, chacun vit chez soi, se regroupe avec des gens qui lui ressemblent, si possible qui ont le même niveau de vie ou la même origine ethnique ou culturelle, etc., etc. La ville explose. Bon, il est évident que ces thèses-là, elles sont aujourd'hui fortement défendues. Bon, Marie-Christine Jaillet, si elle avait été là, les aurait défendues avec force. Je le ferai moi-même tout à l'heure. Mais si on regarde ça maintenant du côté des mobilités, on peut tout à fait avoir cette même lecture, dire il y a une tendance aujourd'hui dans les villes à ce que, au fond, les gens s'organisent et se répartissent, alors dans les villes, pardon, dans les espaces urbains, c'est-à-dire dans ces grandes aires urbaines un peu étalées, on peut tout à fait dire qu'il y a une tendance à ce que les gens se répartissent et s'organisent par groupes sociaux, par groupes ethniques, etc., etc. Oui, mais ce n'est pas un vrai problème, puisqu'en fait, ils possèdent chacun des capacités, des compétences de mobilité qui sont élargies, et donc certes, leurs voisins immédiats leur ressemblent, mais au quotidien, ils parcourent des distances, ils vont dans des quartiers qui les mettent en rapport de toute façon avec des gens différents. Et donc, ceux qui défendent cette idée-là, des gens comme par exemple François Hacher, disent, mais ceux qui disent la ville se fragmente, la ville est socialement ségrégée, ben, se trompent. Ils n'ont pas compris qu'on a changé d'échelle. Ils n'ont pas compris que tout n'est plus qu'une question de quartier ou de regroupement par commune ou par petits morceaux de commune, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle les mobilités et qui est révolutionnaire. Et qui est révolutionnaire au sens où ça remet complètement en question nos savoirs et nos appréhensions des modes de vie, des manières d'habiter dans l'espace urbain. Donc, vraiment, le premier élément sur lequel je voulais insister, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser les modes de vie contemporains si on n'a pas à l'esprit que dans cet espace urbain qui s'étale toujours plus, qui grandit toujours plus, comme on l'a décrit mardi, ben forcément, il y a quelque chose qui s'appelle la mobilité, les mobilités, qui est au cœur des enjeux de l'analyse des modes de vie, des modes d'habiter. C'est au cœur des enjeux, ça devient presque une prescription sociale. Il faut être mobile, quoi. Il faut être mobile. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on compare les enquêtes qu'on faisait il y a quelques années sur les gens qui vivaient en maison individuelle, qui avaient accédé à la propriété en maison individuelle, il y a 10-15 ans de ça, hein, les résultats des entretiens, c'était vraiment de dire, bon, en gros, c'est l'aboutissement de mon parcours résidentiel, c'est l'aboutissement de ma trajectoire sociale plutôt ascendante. Malgré les difficultés, la crise, etc., j'ai réussi à acheter mon pavillon, et puis voilà, hein, c'est définitif, ou j'ai réussi à acheter mon logement, mon appart, etc. C'est un vrai... Le logement était vecteur d'ancrage. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que pour une... Certes, pas pour une majorité, mais pour une minorité importante des gens qu'on rencontre et qui accèdent à la propriété, même en pavillon, ben le discours a vraiment beaucoup changé. Et il a notamment intégré cette dimension de mobilité. Les gens sont certes en train de devenir propriétaires, ils investissent et ils continuent à investir affectivement dans leur lieu de vie. Ceci dit, ils ont beaucoup moins de mal qu'il y a quelques années à considérer que c'est une étape. À considérer que le logement est le logement dans lequel ils sont, surtout, enfin, même s'ils sont en train d'en devenir propriétaires, qu'ils ont beaucoup moins de mal à considérer que ce logement est une étape et pas un lieu d'ancrage, pas un lieu où, au fond, ils vont recréer la maison de famille pour eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, etc. Alors que ce modèle-là, il prévalait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc là, on sent bien qu'il y a des changements, qu'il y a des modifications. Et d'un point de vue sociopolitique, on voit bien aujourd'hui que la mobilité, d'une manière ou d'une autre, elle est au cœur des débats. Elle est au cœur des débats parce que, ben, en France, il ne vous aura pas échappé que ça fait un certain temps qu'on dit que la mobilité sociale est bloquée. Qu'en gros, il est de plus en plus difficile en France de sortir de la catégorie sociale dont on est issu. En particulier si on est issu des catégories sociales modestes. Hein, il ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, on dit aussi qu'il est de plus en plus difficile, ou en tout cas on le disait quand les marchés de l'immobilier avaient explosé, qu'il était de plus en plus difficile d'avoir des trajectoires résidentielles ascendantes, parce que c'est difficile de se loger, parce que le logement est cher, etc., etc. Il ne vous aura pas échappé que tout dernièrement, on discute beaucoup des mobilités quotidiennes, de la taxe carbone et du fait que même si vous habitez loin parce que vous ne pouvez pas faire autrement, on l'a vu la dernière fois, eh ben néanmoins vous allez devoir vous acquitter de payer le coût de la mobilité. Il est évident que cette question de la mobilité, d'un point de vue, je prends un autre exemple, dans les quartiers en difficulté, un des objectifs principaux de la politique de la ville, c'est-à-dire des politiques qui sont spécifiquement appliquées aux quartiers en difficulté, c'est bien de recréer, d'y réimpulser de la mobilité, mobilité sociale et mobilité résidentielle, avec l'idée qu'en gros, les choses marcheront dans ces quartiers si les problèmes se résoudront dans ces quartiers, si on arrive à réimpulser de la mobilité. Ce qui est en partie vrai, en partie faux, parce que plus vous y réimpulsez de la mobilité et plus vous forcez favorisez le fait que ceux qui réussissent, et ils sont quand même assez nombreux, ben, du coup s'en vont de ces quartiers. Et donc n'y reste que ceux qui n'arrivent pas à en partir. Donc du coup, ces quartiers sont perpétuellement des lieux où ne vivent que ceux qui sont le plus en difficulté, ceux qui s'en sortent partent. Bon, c'est une aparté, mais c'est ce qui explique qu'on peut... Qu'on peut souvent faire un bilan extrêmement négatif des politiques et des actions conduites en faveur de ces quartiers. On dit toujours ça ne marche pas. Regardez, les habitants, quand on prend leurs caractéristiques, ils sont autant en difficulté qu'il y a 10 ans. Oui, c'est vrai, sauf que ce n'est pas les mêmes. Ceux qui ont réussi, ils sont partis. Mais on ne le voit pas, puisqu'ils ont été remplacés par des gens autant en difficulté qu'eux. Donc cette question de la mobilité, c'est vraiment une thématique qui est au cœur, à mon sens, hein, des débats politiques, des débats sociaux à avoir aujourd'hui. On voit bien qu'elle est très inégalement partagée. On voit bien que la mobilité est aujourd'hui un marqueur fort d'inégalité sociale, hein, entre ceux qui vivent en centre-ville, qui, parce qu'ils sont bien installés, ont au fond de manière assez aisée accès au réseau de transport en commun, mais peuvent aussi utiliser leur voiture, sont en général pas trop loin d'un aéroport, donc ont accès aussi à la mobilité à d'autres échelles. Et puis ceux qui sont très enclavés dans un territoire mal situé, mal desservi, voire installé un peu loin dans le périurbain, on voit bien que la mobilité est devenue aujourd'hui un marqueur extrêmement fort de différenciation sociale, d'inégalité sociale. Hein. On n'est pas tous égaux devant la mobilité. Et ça, c'est une dimension hein, qui est peu prise en compte, finalement, dans les politiques publiques aujourd'hui, qui essaient de résoudre ces problèmes-là ou qui essaient de résoudre ces questions-là. C'est pourtant un marqueur extrêmement fort d'inégalité sociale. Il y a peut-être un certain nombre de marqueurs d'inégalité qui se sont estompés, peut-être. Par exemple, l'accès aux études supérieures, imaginons. J'ai bien dit l'accès, hein, c'est pas dit l'accès à un emploi après les études supérieures. Mais il y a par contre d'autres marqueurs qui sont apparus, et la mobilité en est un. La mobilité en est vraiment un. Ne pas maîtriser les compétences de mobilité, c'est quand même être aujourd'hui dans des situations sociales particulièrement difficiles. Hein. Et donc... Bon, nous, les enquêtes qu'on a pu conduire, par exemple, ces dernières années, auprès de ménages extrêmement modestes qui avaient accédé à la propriété très à l'écart des centres-villes, qui étaient dans des petits pavillons, dans des communes situées à 50 km, par exemple, de Toulouse. Même si leur pavillon n'est pas terrible, même si c'est vraiment une maison phénix basique qui commence à se lézarder au bout de 5 ans, ils ont quand même toujours... un attachement assez fort hein, envers le pavillon. Ils ont du mal à le critiquer. Ils trouvent toujours de quoi le défendre en disant on peut l'adapter, on peut faire une véranda, on peut rajouter une pièce, etc. Ils trouvent toujours à le défendre. C'est vrai. Hein. Par contre, ceux qui vivent le plus mal, c'est la mise à l'écart. C'est le non-accès à la mobilité. C'est le fait de devoir, parce qu'on est loin de tout et que la mobilité coûte cher, de devoir faire des choix. De devoir, du coup, ben, priver ses enfants, par exemple, d'un certain nombre de choses. Non pas parce qu'a priori, ces choses-là sont payantes, mais parce qu'en gros, quand on rajoute le coût éventuel, ou même peut-être elles peuvent être gratuites, si c'est des, je sais pas, l'accès à un équipement public ou autre, mais le simple coût à payer pour s'y rendre fait qu'on vit très mal tout ça. Donc la mobilité est un marqueur extrêmement fort aujourd'hui des inégalités sociales. Hein. Des inégalités sociales et des inégalités territoriales. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect que je voulais aborder. C'est celui qui me paraît le plus englobant. C'est celui, au fond, qui met en rapport toutes les échelles de vie, des échelles les plus quotidiennes, des espaces les plus fréquentés les plus régulièrement, évidemment avec des échelles de vie, y compris planétaires. Hein. Et au fond, le Saskia Sassen, dans son dernier bouquin, Sociologie de la globalisation, montre bien en fait l'existence, par exemple, de catégories sociales de gens hyper mobiles qui fonctionnent au fond sur une mobilité structurée à l'échelle mondiale. Quoi. Alors, ils ne sont pas nombreux, hein, mais ils existent aujourd'hui. C'est quand même une très très grande nouveauté. Elle montre bien aussi d'ailleurs qu'il y a dans la sociologie ou dans le phénomène de globalisation, hein, c'est-à-dire ce phénomène d'échange facilité à différentes échelles, y compris des catégories sociales beaucoup plus modestes qui néanmoins sont là, hein, malgré les embûches qu'on essaye de mettre à leur mobilité, à leur déplacement. Donc en gros, pour finir là-dessus, on est vraiment sur des sociétés et un moment au cours duquel, un moment social et politique au cours duquel tout bouge. Il y a vraiment du déplacement, il y a de la mobilité à tous les niveaux, à toutes les échelles, depuis les migrations internationales, depuis ce qu'on essaie d'éviter, l'immigration de telle population dans tel pays européen, la France notamment. Hein. Depuis ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes de mobilité à une autre échelle, jusqu'à des mobilités plus quotidiennes, la question des déplacements et des transports, on a là un axe extrêmement fort, incontournable dans l'analyse des modes de vie aujourd'hui, et d'autant plus incontournable qu'il est socialement très sélectif. Bon, ça c'est le premier aspect. Des questions, des remarques, des réactions, Vous auriez commencé par les mobilités ou pas? Non, je ne sais pas, si vous deviez caractériser les modes de vie contemporains, vous auriez commencé par ça ou... Pas très original de commencer par ça. Non, vous auriez commencé par quoi? Il me semble qu'on est vraiment sur... par rapport, encore une fois, remettez-vous dans la présentation de mardi, hein, le jeu, l'éclatement des échelles, les distances qui explosent, etc. Forcément, ça implique de la mobilité. Et ce qui caractérise l'espace urbain, c'est bien cette mobilité-là. Mais du coup...
Mais à l'échelle mondiale aussi. Enfin,
jusqu'à l'échelle mondiale.
Point de vue,
bien sûr.
Au niveau du périurbain, enfin, la relation, effectivement, à la centralité, à la décentralité. Mais c'est vrai que c'est à l'échelle mondiale et c'est... C'est cet entrelacement-là quand même qui a produit effectivement aussi ce développement. Et on voit bien que les enjeux sont là aujourd'hui. Quoi. Enfin, je vois le débat qu'il y a par exemple en région aujourd'hui autour de la venue du TGV ou pas. Quoi. Enfin, c'est énorme. Quoi. On voit effectivement aussi à l'échelle européenne, vous l'avez vu l'année dernière, je crois, pour ceux qui sont venus à Archilab, comment effectivement Toulouse restait une question sur la carte de l'Europe. Quoi. Et que c'était effectivement c'était devenu une priorité effectivement que de la poser cette question et de vraiment résoudre très rapidement la venue effectivement d'infrastructures, de transport. Alors parce qu'il n'y a pas que l'avion. Quoi. Ça se situe aussi au niveau du train, du fret, qui à un moment donné effectivement va créer aussi un nœud interactif entre l'économie, le tourisme qui est aujourd'hui plus prégnant dans le.
On est de toute façon, par exemple, sur la question du tourisme, on est sur un type particulier de mobilité et de déplacement, mais de fait, hein, la force, la place du tourisme aujourd'hui, y compris dans les villes, et on le voit bien dans les centres-villes notamment, hein, enfin, la force des acteurs du tourisme pour façonner les espaces urbains, c'est assez effrayant par certains côtés, parce que finalement, c'est faire la ville pour ceux qui ne l'habitent pas. C'est faire la ville pour ceux qui y passent quelques jours dans l'année. Et ils ont une capacité, une puissance, une force extraordinaire, me semble-t-il. Hein. En tout cas, à mon sens, très largement exagéré. Et ils représentent des sommes astronomiques, bien entendu. Mais c'est vrai que derrière cette question de la mobilité, c'est vraiment un phénomène de fond, hein, dans la mesure où il y a... Et c'est juste, hein, de rappeler tout ce qui est lié au fret, au transport de marchandises, etc. Enfin, on est bien dans la société, dans un mode de production dans un mode de production industriel qui est un mode de production... en flux tendu, juste à temps, donc on limite les stocks, donc on est vraiment, c'est ce pourquoi aujourd'hui les routiers peuvent paralyser la France par une grève de quelques jours, c'est parce que toute l'économie fonctionne sur des logiques de flux tendu. Il n'y a pas de stock, donc ça c'est vraiment un phénomène de fond. Et autant par exemple la standardisation des productions, des modes de production et des modes de consommation était un fait caractéristique de la ville des années 60 et de la société des années 60, autant aujourd'hui la mobilité mais généralisée, et essayer d'appliquer ça à différents domaines, à différentes choses. Et effectivement, c'est devenu un courant de fond. Alors après, c'est vrai que là-dessus, bah, il y a d'autres dimensions, il y a d'autres choses qui permettent, à mon sens, d'analyser et de comprendre les modes de vie. La deuxième chose que je voudrais aborder, c'est l'idée que, au fond, bon, quand on analyse les... Oui, pardon. C'est toujours un problème que d'identifier les origines. Au fond, là, sur ces questions-là, on remonte, au fond, certains disent tout ça a démarré vraiment avec l'époque moderne, on a là, avec les grandes compagnies mondiales, etc., petit à petit, même avec la découverte du nouveau monde, quoi, l'installation petit à petit d'une société dans quelque chose où le déplacement, l'horizon, etc., devient s'ancre. Mais plus fortement... Mais plus fortement, ces questions-là, à mon sens, hein, elles ont vraiment commencé à se poser à partir du moment où, au fond, il y a une généralisation de l'automobile individuelle, au fond, dans les années 50, 60, 70, quoi, suivant les territoires, hein, en gros, et les pays. Ça, c'est vraiment un marqueur fort. Ensuite, il y a eu des marqueurs forts avec des progrès extrêmement importants faits dans les transports en commun. Le TGV en est un, enfin, généralisation de l'avion, etc., etc. Mais en même temps qu'il y a toutes ces dimensions techniques, il y a vraiment aussi l'installation dans l'esprit des individus, hein, du fait que la mobilité devient une manière, y compris, de se concevoir personnellement, quoi. Je veux dire, rares sont les gens aujourd'hui qui se conçoivent totalement, enfin, qui se conçoivent immobiles, hein. Et évidemment, vous comprenez bien qu'il y a un jeu entre qu'est-ce qui, dans les progrès techniques, nous force à être davantage mobile, ou qu'est-ce qui, dans les progrès technologiques, est induit par notre volonté d'être mobile. Là, il y a toujours, quand on analyse les modes de vie, il y a toujours un rapport dialectique, bon, au fond, qui est un peu complexe. Alors, on peut facilement dire que tout ça est une manipulation, qu'on nous force à être mobile. C'est évidemment exagéré.
On est arrivé effectivement là aujourd'hui à où est-ce que le débat pose même jusqu'à la réglementation, enfin avec la réforme, je veux dire, des collectivités territoriales jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on vote la loi de la mobilité, sur la mobilité aussi. Parce que effectivement, on va imposer, effectivement, est-ce que tout le monde va, demain, effectivement, il y aura une loi qui va imposer, qu'il faudra de toute façon respecter, et ce sera effectivement de se déplacer régulièrement, enfin concernant, par exemple, nous concernant, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est aujourd'hui, c'est... Moi, je repère quand même une origine quand même entre effectivement les pays anglo-saxons où ils étaient ancrés dans une culture de la mobilité, c'est-à-dire par la conquête de l'Ouest, qui de toute façon, effectivement, par rapport à la maison racine... Ils n'ont pas du tout ce problème. Ils l'engendrent autrement, quoi. C'est-à-dire pour eux, effectivement, il est accessoire, c'est un accessoire qui, quelque part, fait partie de leur vie, qui s'accroche de toute façon à leur maison racine. On voit dans leur culture, effectivement, qu'ils vont... c'est peut-être un petit peu s'écarter du sujet, vraiment, non. Du sujet, mais en même temps, ça...
Non, mais en même temps, on voit bien qu'on est...
La caravane,
Non, mais je pense qu'on est complètement dans le sujet, dans la mesure où... Enfin, moi, quand je dis les années 50-60, généralisation de la voiture, etc., enfin, c'est, à mon sens, hein, une partie d'importation en Europe de l'American way of life, un mode de vie très américanisé.
C'est bien, c'est un peu les États-Unis qui a importé ce mode de...
Dans la mesure où une bonne partie de l'économie industrielle a pris son modèle, notamment au XXe siècle, enfin, le deuxième âge de l'industrialisation a pris son essor quand même plutôt aux États-Unis. Donc oui, par certains côtés, bien sûr. Mais ceci dit, je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même des courants un peu plus profonds. Je veux dire, par certains côtés, presque anthropologiques aujourd'hui, quoi, de mise en mobilité perpétuelle des individus. Alors du coup, c'est vachement... Enfin, ça questionne beaucoup. Hein, ça questionne beaucoup, y compris du point de vue politique. Hein, compris du point de vue politique. Quand on se pose par exemple la question aujourd'hui de à quel endroit vote-t-on en France ? En France, on vote dans le lieu dans lequel, dans le lieu dans lequel on vit, dans le lieu dans lequel sa maison, enfin son logement, pardon, est installé, dans lequel on a son domicile.
première démarche à faire en ce moment.
Voilà, on arrive quelque part, on s'inscrit sur des listes électorales. C'est évident que ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Quand on voit le temps qu'on passe chez soi, en particulier quand on vit dans une agglomération un peu étendue, qu'on se déplace pas mal, mais du coup, où est-ce qu'il faudrait voter? Est-ce qu'il faudrait voter là où on vit? Est-ce qu'il faudrait, enfin, là où on habite, entre guillemets? Est-ce qu'il faudrait voter là où on travaille? Est-ce qu'il faudrait voter les deux, etc., etc. Alors, il y avait une manière de répondre, de résoudre le problème qui était différente, qui était de dire, en fait, on peut toujours continuer à voter là où on habite, mais par contre, on va non pas élire des gens simplement qui vont réfléchir, agir et prendre des décisions pour là où on habite, mais voter pour des gens qui vont pouvoir prendre des décisions à plusieurs échelles. C'est tout le débat actuel sur ce qui s'appellera peut-être un jour les conseillers territoriaux, c'est-à-dire des gens où on élirait en même temps des gens pour gérer son département et sa région. L'arrière-fond de tout ça, l'arrière-fond de ce débat, c'est comment à un moment donné on rend possible une représentation politique plus adéquate avec les modes de vie. Alors, il est évident que les élus résistent, hein, ils veulent s'attacher à des mandats tels qu'ils sont prédéterminés, prédéfinis, préexistants, bien sûr, mais c'est une question politique éminemment complexe, mais centrale. C'est-à-dire, pourquoi vote-t-on, quoi ? C'est pourquoi vote-t-on aujourd'hui ? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui habitent, je ne sais pas moi, qui habitent dans des communes, ils votent dans ces communes, et leur vote, en fait, n'a que très peu d'impact sur leur mode de vie quotidien.
Oui, parce qu'ils vont dormir, enfin, moi,
dormir dans ces communes. Point.
J'ai vécu à Lille pendant un moment, la majeure partie des personnes que je rencontrais travaillaient à Paris, mais dormaient à Lille. Et ils faisaient aller-retour avec le TGV, en une heure de TGV, on était à Paris. Mmh. Oui. Non, et de nous. Mmh. On mettait moins de temps pour arriver, pour faire Lille-Paris, que de prendre sa bagnole, faire le tour du périph' et d'aller dans une petite usine qui était juste à côté, quoi.
Et là, il y a du coup...
La mobilité, elle est à double...
Ben oui, c'est pas qu'un sujet anecdotique, quoi, hein, évidemment. Ça a y compris des résonances politiques. Aujourd'hui, on voit bien comment...
Ça a des résonances administratives.
Oui, ben oui. Parce que c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on crée ou qu'on a tenté de créer des structures, par exemple, intercommunales. Parce qu'on voit bien que fonctionner et gérer... les problèmes, gérer l'action, prévoir et conduire l'action publique à l'échelle des communes en France, ça n'a plus beaucoup de sens. On le sait. Alors, comment fait-on ? En France, on n'arrive pas à supprimer les communes, d'autant qu'on en a beaucoup. Alors, on dit, on va vous inciter à vous regrouper. Hein ? Mais évidemment, on y arrive plus ou moins bien, ça dépend des endroits. Et puis, les communes existent toujours, donc elles gardent toujours un pouvoir important même. Dans les métiers qui nous intéressent, il ne faut jamais oublier que c'est les communes qui gardent la compétence en matière d'urbanisme. C'est-à-dire que toutes les décisions en matière d'urbanisme, même s'il existe une structure intercommunale, in fine, sont prises par le maire, par les maires des communes. Donc vous comprenez bien comment ensuite tous les projets de transport en commun, un peu innovants, etc., etc., si le maire d'une commune ne veut pas que l'urbanisation de sa commune corresponde à ces projets-là, il en a tout à fait le pouvoir et il peut continuer de faire totalement ce qu'il a envie de faire. C'est ce qui peut se passer, par exemple, pour le TGV. C'est ce qui se passe avec la construction des logements sociaux, par exemple, etc., etc. Donc, cette question vraiment des mobilités, il faut la prendre en compte. Il y a un petit bouquin qui est sorti il y a un an ou deux, là, qui s'intitule « Gouverner la ville mobile ». Bon, qui est vraiment, c'est vraiment un ouvrage de sciences politiques appliqué à ces questions-là, mais qui essaie de traduire dans des préoccupations de la science politique, comment peut-on de fait aujourd'hui essayer de gouverner, de gérer, d'administrer des territoires dont on sait qu'ils sont mouvants.
J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'en partie, mais dans une certaine partie, il y avait des technologies qui avaient apporté, favorisé justement... cet accroissement rapide de la mobilité. Mmh. Il y a Internet qui est apparu dans les années 90. Est-ce que Internet, qui nous permet d'avoir accès à un endroit, unique, à une information globale et mondiale, va influencer sur cette mobilité en l'accroissant ou au contraire en la régulant ?
Le grand espoir, ou en tout cas la chimère un peu depuis des années, c'est plutôt travailler avec tous les modèles du télétravail ou autre, c'est de dire justement... L'essor des mobilités, l'essor des technologies de l'information et de la communication va permettre de limiter les mobilités. On s'aperçoit quand même que c'est plutôt l'inverse qui se produit. En tout cas, nous, les études qu'on conduit montrent plutôt que plus les gens utilisent les TIC, et en même temps, souvent, pas toujours, mais en même temps, souvent, plus ils sont mobiles. Bon, le contre-exemple, c'est évidemment le mec qui est complètement bloqué devant tous ses écrans chez lui et qui sort jamais. Mais c'est quand même anecdotique, je veux dire. C'est, ça, c'est des figures cinématographiques. Il y en a quelques-uns, bien sûr, non, mais c'est évident. Mais il y en a peut-être de plus en plus. Mais pour la majorité des gens, quand même...
Mais c'est le début. Ça fait quand même que dans les années 90, que le PC...
Après, oui, là-dessus, on est sur des phénomènes sur lesquels on n'a pas, pas un recul énorme.
D'accord.
Mais quand même,
donc
je veux dire,
reste à voir, quand même.
Ben, regardez ce genre de technologie-là, ça c'est quand même plus adapté à la mobilité que ce que ça l'a contré, quoi. Enfin, c'est plutôt fait justement pour... enfin, je veux dire, on est plutôt allé d'ordinateurs qui étaient des ordinateurs lourds et impossibles à déplacer à des ordinateurs qui font un kilo et qu'on peut prendre avec soi n'importe où.
Quand je pars au week-end, je ne suis pas inquiet de ne pas pouvoir répondre à des mails d'urgence.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon,
ça facilite la mobilité. J'hésite plus à quitter le domicile pour, parce que je sais qu'à un moment donné, voilà, j'ai un truc à régler, je n'ai pas réglé le vendredi soir ou autre, je pars et je règle sur place. Donc ça produit aussi, ouais, effectivement, ça produit la mobilité.
Ça peut en produire.
Comme au niveau des marchandises. On voit comment effectivement le commerce est en train de s'accaparer, enfin depuis un moment de toute façon, je veux dire ça, mais c'est pas d'aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est les outils qui changent quelque part. Après c'est vrai que c'est la progression de ces outils, leur capacité effectivement à générer du service, qui est génère d'autant plus effectivement de la mobilité, mais dans tous les sens du terme, aussi bien des corps que des marchandises, que du. Et ça génère effectivement, après ça revoit les répercussions aussi. Comme le flux tendu, c'est possible parce qu'à un moment donné, effectivement, on a communiqué différemment. Quoi. Parce que le temps de communication, effectivement, ça réduit de plus en plus, ce qui nous permet, effectivement, de gagner du temps sur la commande et générer, effectivement, de l'arrivage en fonction de...
Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est encore aujourd'hui à un moment où cette idée ou ce mythe que les TIC pourraient, à terme, réduire les déplacements, est quand même toujours... on est encore sur des mythes qui sont actifs et qu'on essaie de... et qu'on essaie d'utiliser pour refavoriser des activités, télétravail, enfin, etc., etc. Ou livraison de marchandises, ou que sais-je encore. Mais on est quand même de toute façon sur un moment où les mobilités explosent et se diversifient. Donc je crois que, enfin, à mon sens, c'est quand même pas complètement pour demain que tout ça va se juguler, notamment grâce au TIC. Le deuxième élément que je voudrais aborder, pour caractériser les modes de vie, c'est évidemment qu'aujourd'hui, pour comprendre les modes de vie, et notamment l'essor des mobilités, je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on est quand même engagé sur un processus séculaire d'individualisation. Il faut le rappeler, c'est une évidence, mais enfin, il faut quand même toujours le rappeler. Et ça nous impacte directement quand on parle de la question urbaine, de la manière dont on habite un territoire. C'est-à-dire, au fond, on est bien sur un processus démarré il y a 2-3 siècles hein, et qui se poursuit, qui se renforce, qui est un processus d'individualisation. Alors, on peut être très critique vis-à-vis du processus, hein, il y a des auteurs qui le sont, il y en a beaucoup, qui montrent bien que l'individualisation est nécessairement une impasse, etc. etc. Bon, ceci dit, quand on regarde un petit peu les comportements des individus, et notamment des individus en ville, il est évident que l'individualisation est un élément clé. Alors ça se traduit comment? Ben, ça se traduit par différents aspects. Premier aspect, je crois, qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il y a une volonté forte aujourd'hui d'autonomisation, c'est pas tout à fait la même chose, hein, d'autonomisation des individus au quotidien. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, et là on peut revenir sur même laquelle, on peut revenir, il y a des liens à faire avec la question des TIC, la question des mobilités, c'est qu'on accepte de moins en moins au quotidien.
Excusez-moi, TIC.
Technologie de l'information et de la communication.
D'accord.
L'éthique. On accepte de moins en moins aujourd'hui de se voir freiner, de se voir empêcher individuellement, personnellement, de faire ce qu'on a envie de faire. Hein? On accepte aujourd'hui très difficilement hein, de devoir fonctionner collectivement, plus difficilement que par le passé, parce qu'on y est beaucoup moins habitué. parce qu'on est sur un processus bon, séculaire. Hein, il y a des auteurs un peu clés, comme par exemple Norbert Elias, qui montrent bien comment, depuis la société de cours, les sociétés de cours, et jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment sur ce processus très 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 profond d'individualisation dans les sociétés, d'individualisation. L'autonomisation, donc, c'est de dire, au quotidien, chacun, par exemple dans un ménage, a envie d'être plus libre, a besoin d'un degré de liberté plus important que ce dont il avait besoin par le passé. Quand on regarde la manière dont, par exemple, aujourd'hui, on l'avait vu un petit peu dans le travail qu'on avait fait il y a 2 ans en mélangeant les étudiants là, sur le pavillonnaire, les jardins et les garages. Mais quand on regarde comment les gens s'approprient leur logement aujourd'hui, notamment quand ils ont eu la possibilité de le faire construire et qu'ils ont quelques moyens, mais même s'ils n'en ont pas trop, ben on voit bien que sont apparus de plus en plus, bien sûr, dans les pays développés aujourd'hui, quand même la chambre partagée par les enfants, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus surprenant, quoi. Surprenant. C'est-à-dire, dans les enquêtes, on rencontre de moins en moins fréquemment, sauf des ménages extrêmement modestes, des gens qui font partager par leurs enfants une même chambre. Et les enfants, évidemment, ne sont pas très preneurs, évidemment, de ce partage-là. Ils ont évidemment cette envie d'autonomisation. Cette envie d'autonomisation, elle concerne la chambre, mais dans les logements, elle concerne évidemment aussi le fait qu'on a vu apparaître ces dernières années, notamment dans les pavillons, notamment dans le périurbain, des pièces nouvelles. Hein, les gens qui achètent, qui ont un garage, puis le garage se transforme dans la pièce qui est censée, par exemple, devenir, le bureau du papa, quoi. Hein? Ou bien la pièce que le papa utilise pour, bricoler sa moto parce qu'il adore la moto et qu'il lui paraît totalement inconcevable de ne pas avoir une pièce dans laquelle il puisse bricoler sa moto, etc. etc. Hein. Donc soit il y a des pièces dans les lieux de vie, il y a des pièces comme ça qui sont apparues, qui sont appropriées ou prévues ou conçues pour une personne du ménage, soit il y a une pièce qui est souvent aussi le garage, en particulier quand il est... Quand on est sur une maison avec un étage ou que le garage est le sous-sol, souvent c'est une pièce qui a été... Donc le garage a été transformé en une pièce, et cette pièce a vocation à accueillir les usages successifs, mais pas concomitants. Par exemple, en semaine, la maman, de la peinture, de l'aquarelle, parce qu'elle fait de l'aquarelle dans une association d'aquarelle dans son village, d'accord ? Le week-end, le papa y reçoit une fois tous les mois ses copains et fait une fiesta pas possible. Et puis, quand c'est nécessaire, qu'il pleut dehors, les enfants utilisent cette pièce-là. Parce qu'au fond, les pièces à vivre, les pièces à vivre initiales, sont devenues de moins en moins partageables. Parce qu'on accepte de moins en moins de devoir, dans une pièce à vivre, avoir à supporter le bruit des uns, l'utilisation de l'espace par les autres. Il y a vraiment de plus en plus, on le voit bien dans le pavillon, c'est aussi très visible pour les mobilités des individus. Là, il y a bien cette volonté de ne pas être empêché de pouvoir demeurer autonome, de pouvoir demeurer autonome de ses déplacements, de ses choix, de ses activités, etc., etc. Pour les mobilités, c'est flagrant. Au fond, avec multiplication des voitures, les gens qui se déplacent seuls dans leur voiture, il y a bien cette idée, au fond, de recherche d'autonomie individuelle. Tout frein à cette autonomie, toute limitation de cette autonomie est particulièrement mal vécue. Hein. Et ça marque du coup beaucoup les rapports à la ville. Parce que si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois, fin mardi, une partie de ce qui caractérisait la ville, c'était quand même le fait de devoir être engagé de manière assez fréquente dans des interactions sociales qui avaient pour caractéristique d'être des interactions aléatoires. En gros, souvenez-vous, je vous donne l'exemple, vous sortez de chez vous, vous prenez le métro, vous ne savez pas forcément à côté de qui vous êtes assis. Et pourtant, vous le tolérez, vous l'acceptez. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de très sympa, vous discutez. Si ça se trouve, c'est une interaction assez désastreuse, désagréable qui se met en place. Mais vous acceptez à un moment donné de ne pas être assis comme vous auriez envie d'être assis, de ne pas tout à fait pouvoir faire ce que vous aviez envie de faire, même si vous aviez envie de le faire. La socialisation, les sociabilités urbaines, elles sont quand même très fortement marquées par cette idée qu'à un moment donné, il va falloir faire des concessions. par cette idée qu'à un moment donné, il va falloir faire, on ne va pas pouvoir faire complètement ce qu'on veut, tout le temps, comme on veut, quand on veut, parce que ben voilà, la ville, c'est un lieu qui est limité, historiquement, hein, je parle, dans sa forme, dans son espace. Elle induit donc une certaine forme de densité, et qui dit densité dit la nécessité ben, de faire avec les gens qui habitent à côté, quoi. Voilà, et on ne peut pas faire autrement. Bon, on voit bien comment ça, c'est de plus en plus difficile à supporter pour un bon nombre d'individus. Pour un bon nombre d'individus, c'est vraiment difficile à supporter. Et dans les entretiens, hein, on voit bien comment ce qui pose problème dans la ville. Quand la ville, quand les gens décrivent aujourd'hui les usages qu'ils ont de la ville, et quand il s'agit pour eux de décrire comment dire, quelque chose comme une ville à la carte. Moi, je vais là, je peux aller là, je vais faire mes achats là, mon coiffeur est là-bas, mon club de machin bidule est là, et puis après je rentre chez moi, etc. Ça va très bien en fait. Ça va bien. Quoi. C'est la ville à la carte, ça va très bien. Cette ville à la carte, vous voyez bien comment elle va très bien aussi avec la mobilité, et vous voyez bien comment elle va très bien aussi avec la mobilité en particulier quand cette mobilité peut être individualisée, notamment par l'usage de l'automobile. Hein? Du coup, par exemple, organiser des transports en commun dans la ville aujourd'hui, on peut trouver toutes les solutions techniques qu'on voudra. Hein. On peut faire toutes les modélisations mathématiques, et les ingénieurs le font, pour trouver en fonction de la taille du territoire, de la densité, du nombre de stations, de l'organisation des commerces, etc., etc., la localisation forcément la plus adaptée des infrastructures de transport. Mais ceci dit, on ne peut pas aller contre une volonté des individus qui est celle de maîtriser toujours davantage, toujours plus, leur autonomie, et notamment leur autonomie de déplacement. Et donc ben, on a des individus qui vivent assez mal toute limitation. Donc ça, c'est un attribut, à mon sens, un peu caractéristique de l'individualisation aujourd'hui. Du coup, cet attribut, il a, à mon sens, pour effet de renvoyer assez largement à une volonté des individus aujourd'hui de vivre entre soi, de vivre dans des environnements où on est voisin de gens qui nous sont identiques. Parce que finalement, les individus se disent que c'est quand même le meilleur moyen de ne pas être gêné, le meilleur moyen de pouvoir maximiser la maîtrise de son temps, de son quotidien, de son autonomie, ben, c'est de vivre à côté de gens qui ont des modes de vie proches ou identiques des vôtres. Vous avez envie de dormir le dimanche matin, si évidemment vous êtes dans un lotissement où il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus vieux que vous et imaginons de milieux plus modestes, il y a de fortes chances qu'ils se lèvent très tôt, y compris le dimanche matin, et que ben justement ils en profitent pour bricoler, tondre, etc., etc. Si par contre vous êtes dans un environnement socialement plus homogène en termes d'âge ou en termes de catégorie sociale, vous aurez eu à peu près tous les mêmes loisirs le samedi soir, et donc le dimanche matin, a priori tout le monde dormira, et finalement chacun individuellement, s'y retrouvera, quoi, j'ai envie de dire. Hein? Chacun individuellement s'y retrouvera. Donc, cette volonté de vivre entre soi, bon, là, c'est le côté le plus anecdotique de la volonté de vivre entre soi. Parce que cette volonté de vivre entre soi, elle a bien sûr d'autres moteurs que celui de la volonté de garder des marges de manœuvre. La volonté de vivre entre soi, par exemple, aujourd'hui, bien sûr, elle doit beaucoup à la volonté de conserver autant que possible le contrôle de la valeur du bien immobilier dans lequel on investit. Bon, ça va de soi. Hein. Si j'investis dans un quartier cher et que mes voisins ont fait de même, ben, eux comme moi avons intérêt à ce que le quartier reste cher, voire qu'il le devienne encore plus. Et donc, eux comme moi avons un intérêt commun. J'ai pas dit général, j'ai dit commun. Avons un intérêt commun, je devrais même dire collectif, à ce que ben, personne, par exemple, parmi nos nouveaux voisins, ne puisse venir parce qu'il est, parce qu'il représente, parce que sont ses propres moyens à lui, faire baisser la valeur de notre bien. Hein? Donc être entre soi, c'est évidemment ça. Être entre soi, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi se dire que dans une société en crise, notamment du point de vue de l'emploi et de l'accès à l'emploi, ce qui est de plus en plus fondamental, ben, c'est la possibilité d'assurer à ses enfants des conditions d'éducation, l'accès à des conditions d'éducation les plus favorables possibles. Et donc, être entre soi, ben, c'est quand même très rassurant. pour pouvoir garantir à ses enfants l'accès à des conditions d'éducation dont on a envie qu'elles soient les meilleures possibles. Parce qu'on a tous compris aujourd'hui que finalement, vous savez, la formule, c'est la lutte des classes a disparu et elle a fait place à la lutte des places. Hein. Donc il n'y aurait plus de lutte des classes, mais il y a par contre clairement une lutte des places. Cette lutte des places, elle se joue individuellement. Hein. Elle se joue individuellement, elle se joue plus collectivement. Je viendrai hein, tout à l'heure là-dessus. Mais l'individualisation, elle a été y compris jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à faire croire à une bonne partie de la société qu'elle pourrait trouver individuellement les propres réponses ou, à ce que sont un certain nombre des contradictions sociales qui les touchent. Bon, très bien. Concrètement, je m'emporte un peu. On va aller sur un volet un peu lutte des classes, etc. Donc on va y aller mollo. Donc évidemment, l'entre-soi, c'est en partie, hein, aujourd'hui, ça se joue beaucoup effectivement autour des enfants. Hein. Forcément. Oui, c'est assez inquiétant parce que évidemment, les mots d'ordre ou les mots-clés ou les images qu'on a en tête aujourd'hui sont largement des images ou des représentations, par exemple, de la ville ou de la société, qui sont des images héritées de la période où la ville était encore une ville. C'est-à-dire où, c'est ce que je disais au début, elle permettait une certaine forme de mixité, une certaine forme de trajectoire résidentielle et sociale ascendante. On n'en est plus là. On est aujourd'hui plutôt dans une ville où, du fait de l'individualisation, du fait de la volonté des individus d'être autonomes, du fait de la volonté des individus de garantir à leurs enfants les meilleures conditions possibles d'éducation, eh bien, on recrée des entre-soi relativement homogènes. Hein. Alors, bien sûr, ça, c'est inquiétant, et puis, par certains côtés, ça fait, vous savez, un peu le côté... je regarde les modes de vie, et je dis où que les gens sont méchants, ils se regroupent entre catégories identiques, et si possible, hein, les riches avec les riches, pour mettre à distance les pauvres qui restent entre eux. Bon, il ne faut pas non plus rêver, hein. C'est pas tout à fait nouveau dans la ville, hein, que les gens se regroupent comme ça. Et, j'allais y venir, on est aussi à un moment de la société où, quand même, une bonne partie de l'évolution sociale, et notamment une bonne partie de l'évolution du rapport à l'emploi, insécurise toujours plus les individus. Hein, c'est-à-dire que dans la période de la ville qui permet de la société qui permet l'ascenseur social, de la ville qui permet les trajectoires résidentielles ascendantes, on a quand même une société dans laquelle l'emploi est quand même quelque chose de relativement stable. Pas forcément toujours très rémunérateur, même si on est à une période dans les 30 Glorieuses, par exemple. Il y a un très bon article sur les 30 Glorieuses dans Le Monde d'hier. Mais on est à une période où même les salaires augmentent. Hein. Bon, là, tout ça, c'est bien fini aujourd'hui, quoi, hein. La précarité ne cesse d'augmenter. Le chômage, on a bien compris qu'il n'était pas conjoncturel. L'accès à l'emploi est toujours plus difficile, notamment pour les jeunes, et y compris des catégories sociales qui avant n'étaient pas touchées, des groupes sociaux, pardon, qui n'étaient pas touchés avant par la difficulté vis-à-vis de l'emploi. Je pense aux cadres. Hein. Les cadres, a priori, dans un pays comme la France, mais assez largement même en Europe, à partir du moment où c'était dur de devenir cadre, mais quand on l'était devenu, on était quand même tranquille. Hein. On voit bien aujourd'hui que les cadres, notamment les cadres moyens, ne sont pas du tout à l'abri hein, de perdre leur emploi. Donc il y a une insécurité sociale, pour reprendre le terme de Robert Castel, il y a une insécurité sociale générale, bien sûr, et les gens cherchent donc à se réassurer. À se réassurer. Alors pendant longtemps, ils ont pu penser que la réassurance pouvait être collective. Hein, seul en tant qu'employé, ouvrier, même cadre, hein, j'étais pas grand-chose, mais collectivement, je pouvais être porteur d'une force qui me mettait quand même relativement à l'abri. Bon, ça marche plus trop aujourd'hui, hein, l'individualisation est passée par là, quoi. Hein. Et donc, les gens cherchent à se réassurer comme ils le peuvent, dans une société qui est insécurisante socialement, et qui ne se contente pas de ça, qui est aussi une société dans laquelle, comme le dit, comme l'écrit Alain Ehrenberg, on est quand même sur une société du culte de la performance. Hein, Alain Ehrenberg est un sociologue qui a écrit une série de bouquins dans les années 80-90 qui sont extrêmement intéressants, dont un s'appelle « Le culte de la performance » et dont le suivant s'appelle « La fatigue d'être soi ». Donc on est bien sur une société où, en gros, on demande toujours plus dans un contexte toujours plus instable et les gens finissent quand même assez souvent par craquer. Il y a eu quelques suicides au travail ces derniers temps. Burnout, c'est cette thématique-là, hein, on est tout à fait sur cette thématique-là. Et du coup, les gens cherchent à se réassurer. Et la réassurance passe par l'habitat. Ça, c'est, à mon sens, une des choses extrêmement importantes à comprendre aujourd'hui, qu'avait très bien commencé à voir Henri Lefebvre, qu'a très bien théorisé, par exemple, quelqu'un comme Jacques Donzelot, c'est le fait qu'on est de plus en plus passé en France aujourd'hui, hein, notamment en France, mais c'est valable pour d'autres pays du monde, de questions qui étaient avant des questions sociales. On essayait de garantir aux uns et aux autres des droits. Ces droits étaient souvent liés au statut professionnel, notamment. Ces droits, ils sont mis à mal aujourd'hui. Ils sont mis à mal. Hein. Droit, est-ce qu'on aura tous droit à une retraite? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on met en face, je crois que j'ai déjà pris cet exemple, hein, ce qu'on met en face, c'est la nécessité pour chacun de devenir propriétaire, parce qu'au moins, si on n'a pas de retraite, on sera au moins propriétaire de son logement. Sauf que la propriété du logement, ça nous renvoie à quelque chose qui est ben, où est localisé ce logement, et ça nous renvoie directement à la question de la ville et de l'espace urbain. Et donc, on est sur une logique aujourd'hui où la question urbaine, qui pendant longtemps est restée relativement secondaire, je veux dire, la ville c'était un objet militaire pendant longtemps, hein, un truc entouré de murailles qu'il fallait défendre périodiquement, ça pouvait être un lieu où les pouvoirs étaient représentés, hein, fortement, on faisait des beaux châteaux, des belles églises, etc. Mais pour le reste, les gens qui habitaient, ben, ils habitaient là parce qu'ils habitaient là, on s'en fichait un peu, quoi, peu importe. Bon, on est bien à un moment où il faut prendre conscience que ça, c'est quand même fini, quoi, et que la ville est tout aujourd'hui sauf un objet technique, elle est vraiment plus que jamais un objet social et politique extrêmement complexe, hein, en grande partie parce que les dynamiques d'individualisation d'un côté, mais, je veux dire, c'est complètement lié à ce que subissent les individus, notamment en termes d'insécurisation sociale, eh bien, ces dynamiques-là les amènent à investir toujours davantage dans la ville, toujours davantage dans leur logement. La question, c'est donc, bien sûr, si j'investis toujours davantage affectivement, notamment dans mon logement, pas seulement économiquement, mais affectivement dans mon logement, mais économiquement aussi, hein, c'est pas anecdotique, hein. Ben, je veux toujours plus garantir le fait que mon logement soit situé dans un environnement que je vais pouvoir contrôler et maîtriser. Et donc on en revient à la thématique de l'entre-soi dont on parlait tout à l'heure. Donc cette thématique de l'entre-soi, c'est une thématique complexe. On peut avoir des regards extrêmement critiques portés sur la ville aujourd'hui, des regards à la Mike Davis disant bon, au fond, oh là là, qui sont méchants, ces riches qui se regroupent, etc. Bien sûr, hein, on peut être assez d'accord avec lui, il y a des endroits où c'est tellement caricatural que voilà. Mais d'un autre côté, on est quand même la plupart du temps, hormis quelques ghettos de riches, enfin, vous connaissez peut-être les bouquins d'un couple de sociologues français, Monique Pinson et son mari Daniel, ils travaillent sur les catégories très favorisées, l'aristocratie et la grande bourgeoisie française, et ils ont écrit un bouquin qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle Les ghettos du Gotha. Hormis les ghettos du Gotha, pour le reste aujourd'hui, une bonne partie des regroupements sous forme d'entre-soi sont certes critiquables, bien sûr, mais en même temps, il faut essayer de les déconstruire, de les comprendre, et on voit bien que derrière, oui, il y a la volonté des gens de ne pas se mélanger avec d'autres. Oui, il y a des quartiers repoussoirs, oui, il y a des populations particulièrement repoussoires. Hein. Je crois que, bon, il suffit de voir l'utilisation qui est faite aujourd'hui de la thématique, là, le chiffon rouge là, qui est agité autour de ce débat sur l'identité nationale, pour bien voir que qu'est-ce qu'on veut faire là, c'est politiquement jouer sur des populations repoussoires pour électoralement se faire un peu valoir, quoi, hein, c'est évident. Je dis tout ça d'autant plus que je fais une aparté, on m'a appelé hier pour me proposer d'introduire et d'animer les débats sur l'identité nationale dans le Tarn. J'ai dit mais ça va pas. Le préfet qui m'a appelé et qui m'a dit on cherche quelqu'un, on a envie que les débats soient dépassionnés. Je ne suis pas la bonne personne. Je ne veux pas participer à cette mascarade. Bon. Donc je veux dire très clairement.
Milieu rural, quoi, dans le Tarn, c'est-à-dire.
Albi et à Castres.
Albi et Castres.
Je ne voulais pas me retrouver dans une salle de militants UMP. Non, négatif. J'y vais pas. Je ne sers pas de caution.
Vous aviez préparé un texte très spécial pour moi.
Non, 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 je ne préparerai rien, je ne dirai pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, donc, ces questions de l'entre-soi, on peut les voir de manière évidemment très critique. Et il faut, par certains côtés, et à certains moments, être dans la critique. Il faut aussi, je pense, plus largement, être dans une critique qui peut être à la fois compréhensible. Il y a des gens vraiment qui sont sur la thématique de la réassurance. Ce n'est pas une vue de l'esprit, quoi, hein. Et donc, bon, il faut quand même essayer de comprendre tout ça. Donc, cette deuxième dynamique un peu large, individualisation, autonomisation, recherche d'entre-soi, vous voyez bien qu'elle est particulièrement contradictoire de ce qui, avec ce qui caractérise la ville. Ce qui caractérise la ville, c'est quand même assez largement l'acceptation de la différence et de l'altérité, historiquement. En tout cas, la ville, c'est quand même un lieu où on met en contact des gens différents. Je veux dire, par définition, quand la ville de Toulouse que je vous ai montrée au 1er siècle après Jésus-Christ, quand les Romains arrivent dans le sud-ouest de la France et qu'ils s'installent, ils s'installent d'abord dans des grandes villes, avant d'aller au fin fond de la campagne. Donc si on veut voir des Romains au 1er siècle dans le sud-ouest, il faut venir à Toulouse. C'est là que sont les gens différents. On est d'accord, hein? Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. C'est là que sont les migrants. Les gens qui immigrent, ils sont plutôt dans les grandes villes que dans les villes plus petites, sauf le cas très particulier. Bon. Donc la ville, c'est par certains côtés accepter l'altérité. Et on voit bien que tous ces courants-là dont on vient de parler, tous ces dynamiques et ces processus dont on vient de parler, eh bien, ils sont complètement contradictoires avec ces logiques-là. On est plutôt sur des logiques du repli, on est plutôt sur des logiques de l'uniformité, on est plutôt sur des logiques de rejet, de rejet de l'aléatoire.
Enfin, de réassurance.
Alors,
ouais,
réassurance d'un côté et en même temps de l'autre côté aussi quand même.
Ouais.
Volonté de se mettre à distance, quoi.
Je trouve que c'est paradoxal. Donc, bon. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu paradoxal. Cette volonté de mobilité, de se dire que finalement, on a des logements, c'était quoi le terme qu'on avait employé tout à l'heure, mobilité résidentielle, c'est ça? Et que d'un autre côté, les gens s'accrochent finalement à se dire qu'on est dans une instabilité. Insécurité au niveau du travail, donc on va s'accrocher à notre logement. Donc c'est un peu paradoxal dans les deux sens.
C'est
un peu
oui.
Déjà, en fait, de s'attacher à un lieu qui, en fait, n'est pas concret.
C'est ce pourquoi aujourd'hui c'est extrêmement compliqué, si vous voulez. Il est évident que les problèmes dont on parle, ou ce type de contradiction, quand vous êtes un ménage qui a les moyens, au fond, ces contradictions, vous les réglez. Ça ne pose pas de problème. Par contre, quand vous êtes un ménage qui est plus contraint du point de vue des moyens, ben vous prenez quand même en pleine figure ces contradictions-là. C'est-à-dire, d'un côté, être mobile, être dans la mobilité, être dans le déplacement, être dans une logique d'ascension sociale, et de l'autre côté... Et du coup, vous avez d'autant plus envie d'être dans ces logiques-là. Non, pardon, comme vous avez envie d'être dans ces logiques-là, vous êtes d'autant plus dans la recherche de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'il y a un bouquin qui explique ça très bien, qui est le bouquin d'Éric Morin, qui s'appelle « Le ghetto français ». Ce qu'Éric Morin explique très bien, c'est qu'il est devenu aujourd'hui très difficilement supportable aux gens de devoir habiter ou côtoyer régulièrement des gens qui appartiennent aux catégories sociales qui leur sont juste inférieures. C'est-à-dire que dans un quartier... L'exemple caricatural, ce serait de dire dans un quartier de très riche, il y a des gens très riches, le fait qu'il y ait des gens qui aient des SDF dans la rue, ça ennuie certes, parce que, mais en même temps, bon, au fond, il n'y a pas de risque que les gens très riches deviennent des SDF. Hein. Par contre, ce qui est devenu complètement inacceptable, c'est le fait de se dire, moi qui suis... vraiment, qui est un employé qui aspire à devenir cadre mais qui n'y arrive pas, je ne peux plus tolérer d'habiter avec des gens qui sont des ouvriers. Parce que par contre, demain, je peux redevenir un ouvrier. Hein? Comme on a une logique de trajectoire ascendante qui s'est arrêtée, vous connaissez tous la thématique, les travaux de... Enfin, au moins les thématiques, mais les travaux d'un sociologue qui s'appelle Louis Chauvel, bon, qui dit... En gros, les générations, enfin les vôtres, un peu la mienne aussi quand même, ont de fortes chances de connaître des situations qui seront moins bonnes que celles de leurs parents.
Changeant,
hein? Et peut-être un peu moins bonnes, quoi. Au minimum, identique, équivalente, quoi.
Ça a commencé. Enfin,
et ça a commencé, bien sûr. Ça a commencé.
Largement.
Et donc, si, puisqu'on est là-dedans, alors du coup, ce qui devient impossible, c'est d'accepter de côtoyer... ceux qui sont juste en dessous. Parce que côtoyer ceux qui sont juste en dessous, ça veut dire mettre ses gamins dans une école où le niveau sera un peu plus bas. Et c'est important, il ne faut pas que le niveau soit bas, parce que si le niveau est bas, eh ben, comment nos enfants pourront-ils parler trois langues à l'âge de 12 ans et réussir les concours d'entrée dans les grandes écoles, dont on sait qu'elles sont les seules qui garantissent un emploi plus tard, etc. etc. Enfin, vous comprenez ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du paradoxe dans tout ça. Et la grosse difficulté aujourd'hui, enfin aujourd'hui, une des grosses difficultés, bien sûr, c'est que qui gère ces paradoxes ? Sur qui pèsent ces paradoxes ? Eh bien, sur les individus, sur les ménages, qui pour une bonne partie d'entre eux, eh bien, voilà, sont contraints de devoir se choisir,
ouais, c'est sur des choix,
se débrouiller, choisir. Alors bien sûr, ça marche, ça tient, hein, je veux dire, tant que les gens auront en tête qu'au fond, ce modèle-là veut leur bien, immanquablement, que le bien passe par la nécessaire accession à la propriété, par exemple, etc., etc., et que tant pis s'il faut aller à 50 km, tant pis s'il faut faire des sacrifices extraordinaires en termes de temps perdu, tant pis, etc., etc. Mais tant que ça, et pour l'instant, ça tient, hein, je veux dire, ça tient bien.
Ça commence avec l'augmentation du...
Oui,
l'essence, par exemple, on a senti effectivement
Que
léger, c'est infime.
Sauf qu'on a conduit une enquête un peu exploratoire, là, où on a travaillé avec des gens sur un panel, hein, un panel réduit, une trentaine de personnes, mais ça dit des choses, avec des scénarios. Donc les gens sont assez représentatifs de la diversité sociale. Il y a des très riches, des très pauvres, des moyennement riches, etc., des propriétaires, des locataires, etc., etc., qui habitent en centre-ville, dans le périurbain, loin, près, enfin, un peu partout. Bon, et l'idée, c'était de leur dire, voilà, d'essayer de trouver les effets de seuil, à partir de quel moment, à partir de quelle augmentation des prix du carburant, vraiment, ils allaient changer. Bon, et on se rend compte de quoi ? Ben, on se rend compte qu'il y a des ménages très favorisés qui ne changent jamais rien, c'est-à-dire vous pouvez leur dire, voilà, demain, le litre de gasoil, il sera à 4 euros, 5 euros. Moi, je m'en fiche complètement, je continuerai à avoir 2-4-4, habiter à 50 km, à rentrer chez moi et à revenir à Toulouse pour aller voir un spectacle à l'opéra et manger. Bon, très bien. Après, il y a les ménages flexibles. Et ce qui est bizarre, c'est que les flexibles, ils appartiennent quand même plutôt à des catégories plutôt plus favorisées et ils sont déjà en ville. Donc du coup, on peut se dire que si...
En ville.
Au sens... Dans les premières couronnes des agglomérations.
D'accord.
Hein, en gros, ils habitent à Toulouse ou dans les communes juste limitrophes. Donc ceux-là, même s'ils changent leur comportement, c'est bien, hein, c'est mieux que rien. Et puis après, vous avez des ménages qui, tant qu'ils peuvent, disent qu'ils ne changent rien. On passe à 2 euros. Comment voulez-vous que je fasse autrement ? Ma maison est à 50 km. Je ne peux pas faire autrement, je dois aller travailler tous les matins. Et puis on passe à 3 euros, et puis au bout d'un moment, les gens sont mis devant une situation qui est intenable, qui consiste à dire, merde, non, ma voiture plus la voiture de ma femme, plus le prix, l'augmentation du prix du truc pour le gamin qui prend le bus pour aller, plus le remboursement de la maison, ça représente déjà plus que ce qu'on gagne à tous les deux.
En plus, s'ils ont une voiture qui n'aille pas dans les normes, la taxe carbone.
C'est évidemment ceux qui ont les voitures les plus vieilles, donc qui polluent le plus, qui consomment le plus, etc. C'est évident. Et du coup, la question, c'est que là, il y a des ménages pour qui on ne peut même plus se poser la question de l'arbitrage ou de pas l'arbitrage, etc. Ils vont prendre en pleine figure, ils prendraient, scénario, hein, là on est dans du scénario complet, ils prendraient en pleine figure des contradictions et puis à eux de se débrouiller pour les gérer. Donc c'est ça qui est terrible, hein, c'est que quand même aujourd'hui, cet espace urbain là qui se développe, il est, d'un point de vue social, extrêmement différenciateur, extrêmement sélectif. C'est le cas pour les mobilités, c'est le cas pour la constitution des voisinages. Hein. Et effectivement, à mon sens, tout ça, c'est un petit peu... évidemment, c'est des processus. Je décris là des processus plus que des États. Il existe encore beaucoup de lieux relativement mixtes dans les villes, et heureusement, il existe encore beaucoup d'urbains qui ne sont pas trop effrayés par l'idée d'habiter à côté de gens différents. Mais, semble-t-il, de manière un peu processuelle, il existe des tendances qui ne cessent de s'approfondir depuis ces dernières années et qui consistent à faire en sorte que des gens un peu identiques se regroupent, soit parce qu'ils ont le choix, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que dans les quartiers en difficulté, les gens habitent à côté les uns des autres, sont assez... Enfin, ont des revenus, par exemple, identiques, mais enfin, ils n'ont pas choisi d'être à côté les uns des autres. Mais enfin, ils sont là, quoi. Hein? Donc ça, c'est deuxième élément, individuation, autonomisation entre soi. Et donc fragmentation. et donc nécessairement fragmentation. Donc je crois que première grande tendance, la question des mobilités, deuxième grande tendance, la question de la fragmentation. Ça fait beaucoup déjà.
Tu voulais faire une pause peut-être ?
Oui. Je sais pas. Moi je veux bien.
Toi tu veux bien ?